Véroa Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue. Il est 17h30 en temps universel. Jacques Aristide en votre compagnie. Ravi de vous retrouver pour cette édition du Monde aujourd'hui. Les titres en ce vendredi 10 juin 2022. Au moins 11 gendarmes tués dans une nouvelle attaque de djihadistes présumés dans le nord du Burkina Faso. Le pape François contraint de reporter son voyage en Afrique en raison de ses douleurs au genou. Washington lance un partenariat régional avec l'Amérique latine sur l'immigration au sommet des Amériques. En France, fin de campagne du premier tour des législatives, un mois et demi après la réélection du président Emmanuel Macron. Et puis, comme à l'accoutumée, vos rubriques économiques et sportives à venir dans 10 minutes. Au Burkina Faso, au moins 11 gendarmes ont été tués hier soir dans une attaque menée par des djihadistes présumés dans le nord, près de la frontière avec le Niger. Le point avec Nani Talani.
L'attaque a visé un poste avancé du détachement de gendarmerie de Setenga dans la province du Sénou. Selon un communiqué de l'armée burkinabé, le bilan provisoire fait état d'une dizaine de gendarmes tués, 4 blessés et d'importants dégâts matériels. Les gendarmes ont riposté, mais ils étaient inférieurs en nombre. Toujours selon l'armée, une contre-offensive a été aussitôt lancée, permettant de mettre en déroute les assaillants. Les forces de défense et de sécurité poursuivent une opération de ratissage de la zone et plusieurs éléments manquaient toujours à l'appel ce vendredi matin. Hier, 4 gendarmes ont été tués lors d'une attaque contre le détachement du Garci à Barani, dans le nord-ouest du pays. Toujours dans le nord, dans la même journée d'hier, un soldat et un civil ont été tués dans une autre attaque menée par des hommes armés non identifiés contre la mine d'or de Karma près de Waïgouya. Pour sa part, l'armée burkinabé dit avoir neutralisé une quarantaine de djihadistes et saisi de l'armement et beaucoup de matériel.
Également dans l'actualité en Guinée équatoriale, le vice-président Teodoro Nguemangyang-Mangue menace d'expulser l'ambassadeur de France à Malabo si Paris déloge les diplomates équato-guinéens de l'immeuble parisien abritant leur ambassade, lequel a été confisqué par la justice dans l'affaire des biens mal acquis. Surnommé Théodorin, le tout-puissant fils du président Teodoro Nguemangyang a été condamné définitivement en juillet de l'année dernière à 3 ans de prison avec sursis, 30 millions d'euros d'amende et la confiscation de ses biens en France pour s'y être constitué frauduleusement un luxueux patrimoine dans un volet de l'affaire dite des biens mal acquis. Le pape François est contraint de reporter son voyage en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud, une tournée qui était prévue du 2 au 7 juillet. Le Vatican attribue le report aux douleurs dont souffre le souverain pontife de 85 ans au genou. Les détails avec Claire Morin-Gibourg.
C'est sur demande de ses médecins et afin de ne pas compromettre les résultats de sa thérapie en cours que le Saint-Père est contraint de reporter son voyage à une date ultérieure, a annoncé Matteo Bruni, directeur du service de presse du Saint-Siège. Cette annonce inattendue intervient alors que le Vatican avait déjà annoncé le programme détaillé de ce voyage de 6 jours à Kinshasa, Goma et Djouba. Souffrant de fortes douleurs au genou droit, le souverain pontife apparaît depuis quelques semaines en fauteuil roulant et a annoncé devoir subir des injections d'anti-inflammatoires à base de corticoïdes. « Je n'arrive plus à marcher », a confié le pape François dans une interview en mai, après avoir été obligé d'annuler plusieurs rencontres à son agenda. Le pape souffre aussi de douleurs à la hanche et a subi en juillet 2021 une opération du côlon.
Le roi Philippe de Belgique séjourne à Lubumbashi aujourd'hui, au 4e jour de sa visite en République démocratique du Congo. Le souverain, son épouse Mathilde et la délégation gouvernementale qui les accompagne ont d'abord été accueillis à l'aéroport de cette grande ville par le premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde et les autorités de la province du Haut-Katanga. Le couple royal a ensuite visité l'école belge de Lubumbashi avant de se rendre à l'université de la ville, s'adressant aux étudiants de l'université, le roi Philippe a appelé à regarder vers le futur après avoir évoqué le passé colonial à Kinshasa. 23 ONG appellent les dirigeants du Commonwealth à faire pression sur le Rwanda pour que le pays libère les critiques du pouvoir et permette une plus grande liberté d'expression. Kigali accueille à partir du 20 juin une réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth pour ces ONG, dont Human Rights Watch et Amnesty International. L'événement doit être pour le Commonwealth une occasion de réitérer ses valeurs fondamentales et d'exhorter le gouvernement rwandais à prendre des mesures concrètes pour respecter et promouvoir ses valeurs et d'exprimer au gouvernement sa profonde préoccupation quant à son bilan en matière de droits humains. En Afrique du Sud, une violente collision entre un bus et un camion a fait au moins 15 morts et 37 blessés aujourd'hui, près de la capitale, la Pretoria. Le drame est survenu tôt dans la matinée. 7 des personnes blessées sont dans un état critique. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances et les causes de l'accident. Le pays dispose d'un des réseaux routiers les plus développés du continent africain, mais il est décrit comme un des plus mauvais élèves en matière de sécurité routière. Près de 1500 personnes ont été tuées sur les routes lors des derniers congés de Noël. En Tunisie, 10 ONG, dont Human Rights Watch et Amnesty International, critiquent la révocation de 57 magistrats par le président Kais Saied. Elles y voient une attaque directe contre l'état de droit. Au début du mois, le chef de l'État, qui s'est arrogé les pleins pouvoirs en juillet de l'année dernière, a révoqué par décret tous ces magistrats en invoquant divers motifs dont la corruption, l'adultère et des entraves présumées à des enquêtes sur des assassinats politique en 2013.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Je vous le disais en titre, en France, la campagne du premier tour des élections législatives s'achève ce vendredi à minuit, heure de Paris. Un mois et demi après sa réélection, le président Emmanuel Macron appelle les Français à lui donner une majorité claire à l'Assemblée nationale. Davantage avec Yacouba Ouédraogo.
Les Français doivent renouveler la totalité de l'Assemblée nationale, soit 577 députés, lors d'un scrutin à deux tours ce dimanche et le 19 juin. Le vote débute dès demain samedi dans plusieurs territoires français hors métropole, comme la Guadeloupe ou la Martinique. Le principal enjeu est de savoir si le président Emmanuel Macron va disposer d'une majorité au Palais Bourbon et quel sera le poids des oppositions. M. Macron a brandi la menace des extrêmes de la gauche radicale à l'extrême droite, synonyme selon lui de désordre pour la France. Rien ne serait plus dangereux que d'ajouter au désordre mondial un désordre français que proposent les extrêmes, a affirmé Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon est à Marseille ce vendredi pour un ultime discours. Marine Le Pen se rend dans son fief à Hénin-Beaumont dans le Nord. Le président n'a pas prévu de déplacement pour cette dernière journée de campagne. 14 membres du gouvernement, dont la première ministre Elisabeth Borne, se présentent à ces législatives.
Nous restons en France pour parler de l'entretien à l'Élysée entre le chef de l'État français Emmanuel Macron et son homologue sénégalais Macky Sall, qui est également l'actuel président de l'Union africaine. D'après Paris, les deux dirigeants ont partagé leurs préoccupations sur le groupe militaire privé russe Wagner au Mali et notamment sur ce qui est décrit comme ses crimes envers certaines communautés comme les Peuls. Ici, aux États-Unis, la Maison-Blanche annonce un partenariat régional avec les pays d'Amérique latine sur l'immigration en conclusion du sommet des Amériques à Los Angeles, une réunion qui a été assombrie par des tensions diplomatiques. Les précisions avec Mohamed Oumfa.
Le président américain demande à tous les gouvernements sur les trajets de migration d'établir ou de renforcer les procédures de demande d'asile dans leurs pays respectifs, de garder leurs frontières de manière plus efficace et d'identifier les personnes qui ne sont pas éligibles au droit d'asile, a indiqué une responsable de la Maison-Blanche qui n'a pas souhaité être identifiée. Elle n'a pas donné non plus beaucoup de détails sur cette déclaration dite de Los Angeles qui doit poser les bases d'une responsabilité partagée face à l'immigration. Elle précise aussi que Washington ne s'attend pas à ce que les pays d'Amérique latine présents au sommet signent le texte. Le président mexicain Andrés Manuel López Obrador n'est pas présent à Los Angeles. Il proteste contre la décision des États-Unis de ne pas inviter Cuba, le Venezuela et le Nicaragua. D'autres dirigeants ont adressé hier le même reproche de vive voix au président américain pendant l'assemblée plénière.
Voilà pour les nouvelles qui dominent l'actualité en Afrique et ailleurs dans le monde. Sans plus tarder, en condensé des nouvelles économiques, il est l'heure de la Minute Éco avec Rosine Mounézéro.
Au Togo, la hausse de l'inflation constatée depuis la fin de l'année dernière continue ces derniers mois. Selon la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, le taux d'inflation était à 6,8% en avril cette année, contre 6,6% en mars et 6,1% en février. Cette accélération de la hausse des prix est essentiellement portée par les produits alimentaires, les frais de logement et de transport. Le gouvernement sud-africain envisage d'interdire l'importation et la distribution des appareils 2G dans le pays d'ici fin février 2023. La transformation numérique s'accélère en Afrique du Sud et le gouvernement qui veut garantir l'Internet à tous d'ici 2024 veut accélérer le passage à haut et à l'ultra haut débit. Les principaux opérateurs de télécommunications ont déjà élaboré des plans pour l'extinction de leurs réseaux 2G et 3G. Aux États-Unis, l'inflation est repartie à la hausse en mai, s'accélérant après un répit de courte durée en avril et battant un nouveau record en 40 ans. L'inflation a atteint 8,6% sur un an, contre 8,3% le mois dernier, selon l'indice des prix à la consommation publié vendredi par le département du travail. Les prix de l'énergie et de l'alimentation ont enregistré de fortes hausses sur un an, plus 34,6% pour l'énergie et plus 10,1% pour les denrées alimentaires.
Et maintenant, le tour d'horizon de l'actualité sportive avec Yacouba Ouidraougo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jacques, bonsoir à tous.
Suite et fin hier des derniers matchs de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2023.
Oui, le Cameroun s'est imposé 1-0 devant le Burundi. Le pays hôte, la Côte d'Ivoire, a été tenue en échec par le Lesotho 0-0. Victoire à l'arraché de la Guinée 1-0 devant le Malawi. Défaite surprise 2-0 de l'Égypte face à l'Éthiopie. Le Nigeria a battu la Sierra Leone 2-1. La Guinée-Bissau a dominé Sao Tomé et Principe 5-1. 3-1 pour le Mali en déplacement au Soudan du Sud. En deux sorties, les Aigles comptent 2 victoires et sont premiers du groupe G, d'où la satisfaction de leur sélectionneur Eric Sekou Chell.
C'était exceptionnel, l'état d'esprit que vous avez mis. Vous avez joué une deuxième mi-temps, encore une fois, extraordinaire. Vous méritez cette victoire. Je suis très content de vous tous. Des matchs difficiles, on a eu l'état d'esprit de revenir. Rappelez-vous de l'ambition générale que je vous ai dit. Rappelez-vous où est-ce que je veux que vous y alliez. Et si vous avez cet état d'esprit, chaque jour, à chaque match, qui va venir nous emmerder?
Eric Sekou Chell, sélectionneur du Mali.
Le PSG officialise l'arrivée de son chargé du recrutement.
Le Paris Saint-Germain annonce la venue de Luis Campos, chargé au sein du club de l'organisation, du recrutement et de la performance de l'équipe professionnelle. Il remplace le Brésilien Leonardo, démis au soir de la prolongation jusqu'en 2025 de Mbappé. Il est l'artisan des titres inattendus de Monaco en 2017 et de Lille en 2021 et proche de Kylian Mbappé qu'il connaît depuis ses années monégasques. Son premier dossier chaud pourrait être celui de l'entraîneur du PSG. La venue de l'Argentin Mauricio Pochettino sur le banc depuis une saison et demie reste incertain et plusieurs médias rapportent que le PSG est proche d'un accord avec Zinedine Zidane pour lui succéder.
Basketball, le match numéro 4 de la finale NBA se joue ce soir.
Ça se joue de nouveau au TD Garden. L'antre des Celtics, Boston mène 2-1 face aux Golden State Warriors dans cette finale. Les fans survoltés des Celtics pourront encore voir leur deuxième match d'une finale joué au TD Garden en 12 ans et 14 ans après y avoir célébré leur 17e titre.
LeBron James veut être propriétaire d'une équipe à Las Vegas.
Je vais posséder une équipe, je vais acheter une équipe, c'est sûr, je veux une équipe à Vegas, a déclaré la superstar des Los Angeles Lakers, qui vient à peine de devenir, selon Forbes, le premier basketteur en activité milliardaire. Las Vegas est souvent une ville évoquée pour voir si établir une franchise NBA à l'avenir, à l'instar de Seattle. Mais la semaine passée, le patron de la Ligue, Adam Silver, a écarté toute expansion à 32 équipes dans l'immédiat. Quadruple champion NBA, LeBron James, est copropriétaire de Fenway Sports Group, qui possède la franchise de baseball des Boston Red Sox, entre autres, et détient des actions dans le club de foot de Liverpool.
Merci, Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
L'heure maintenant de passer à notre tranche magazine dans le monde aujourd'hui. Jacques Aristide toujours avec vous. Merci pour votre fidélité à VOA. L'actualité américaine pour démarrer. Après plus d'un an d'enquête, la commission du 6 janvier de la Chambre des représentants des États-Unis a tenu sa première audience publique hier soir. D'après les membres de cette commission, l'ancien président Donald Trump a ordonné à ses partisans de prendre d'assaut le Capitole dans le cadre de ce qu'il qualifie de complot pour rester au pouvoir. Catherine Gibson de la VOA nous en dit davantage. Le récit est de Rosine Mounezero.
Avec une vidéo intense et le témoignage d'un documentariste et d'un agent de la police du Capitole qui a subi un traumatisme, six représentants démocrates et deux républicains ont rendu public pour la première fois leur enquête, plus d'un an après l'assaut le 6 janvier 2021 du Capitole. Le démocrate Benny Thompson qualifie les auteurs d'ennemis de la Constitution.
Ce sont des ennemis internes de la Constitution qui ont pris d'assaut et occupé le Capitole, qui ont cherché à contrecarrer la volonté du peuple d'arrêter le transfert du pouvoir. Et ils l'ont fait avec les encouragements du président des États-Unis, essayant d'arrêter le transfert de pouvoir.
Donald Trump a été mis en accusation en janvier 2021 pour avoir incité cette émeute une semaine avant de quitter la Maison-Blanche. Les législateurs qui ont dirigé cette enquête du Congrès ont eu des centaines d'entretiens et des milliers de documents disent qu'ils iront plus loin en faisant valoir que Trump a planifié et exécuté une tentative de coup d'État violent pour se maintenir au pouvoir. La républicaine Liz Cheney.
President Trump summoned the mob.
Le président Trump a convoqué la foule, rassemblé la foule et allumé la flamme de cette attaque. Vous entendrez également parler de complot séditieux le 6 janvier, un crime défini dans nos lois comme le fait de conspirer pour renverser, abattre ou détruire par la force le gouvernement des États-Unis.
Cette première audience s'est concentrée sur les Proud Boys et les Oath Keepers, des groupes extrémistes dont les membres ont été accusés de conspiration en relation avec l'attaque du 6 janvier. Le cinéaste Nick Quisted a témoigné parce qu'il a filmé ces groupes ce jour-là.
J'ai documenté le passage de la foule de manifestants à émeutiers, puis à insurgés. J'ai été surpris par la taille du groupe, la colère et les injures.
Tous les républicains du Congrès, sauf une poignée, ont déjà dénoncé les résultats de l'enquête, dont Kevin McCarthy, leader républicain de la Chambre.
C'est la commission la plus politique et la moins légitime de l'histoire américaine. Elle a utilisé les assignations à comparaître du Congrès pour attaquer les républicains, violer la procédure régulière et empiéter sur le discours politique de citoyens privés.
Lors de quatre autres auditions, les enquêteurs ont déclaré qu'ils prouveraient que Trump a fait un effort coordonné en plusieurs étapes pour renverser les résultats de la présidentielle. Avec les prochaines élections de mi-mandat, les enjeux sont élevés, d'après le président démocrate Joe Biden.
C'était une violation claire et flagrante de la Constitution. Je pense que ces hommes et ces femmes ont enfreint la loi, ont essayé de renverser le résultat d'une élection.
La commission du 6 janvier ne détient aucun pouvoir juridique, mais peut recommander des poursuites au ministère de la Justice.
Nous restons aux États-Unis pour braquer les projecteurs sur la pénurie de lait pour bébés. Des millions de canettes en provenance d'Australie sont arrivées dans le pays hier. Face au besoin urgent de nourrir leurs bébés, certaines mères ont été obligées d'acheter du lait maternel sur les réseaux sociaux. Caroline Presutti de la Voix de l'Amérique à Washington nous propose ce reportage relaté par Nathalie Barge.
Georges, un petit garçon d'un an, va se régaler ce matin. Sa formule pour bébé est mélangée à des céréales. Sa maman, Lindsay Cates, passe progressivement au lait entier car elle a épuisé son dernier carton de lait maternisé et n'en trouve plus.
Nous allions d'épicerie en épicerie et j'envoyais mon mari à la chance pour en chercher à CVS, Target, Whole Foods, de nombreux magasins et pharmacies pour voir si nous pouvions encore en obtenir.
Le mois dernier, la préparation spéciale pour bébé a commencé à disparaître des rayons des magasins. Les problèmes de chaîne d'approvisionnement ont été mis en cause. La contamination, la mort de deux bébés et les rappels de produits ont entraîné la fermeture en février des laboratoires Abbott dans le Michigan, le plus grand producteur du pays. Face à la pénurie, certaines mères ont recours aux réseaux sociaux et vont jusqu'à acheter du lait maternel à d'autres femmes. Heather Christian, du Minnesota, vend son lait maternel pour 1 dollar l'once. Une autre maman lui en achète pour 50 dollars par semaine.
I'm a mom of five.
Je suis maman de 5 enfants. Tu ne peux pas produire de lait, tu ne peux pas aller acheter du lait maternisé parce qu'il n'y en a pas. Qu'est-ce que tu vas faire pour nourrir ton bébé?
L'usine du Michigan a repris ses activités. L'administration Biden a activé la loi Defense Production pour utiliser des avions militaires qui ramènent en urgence des préparations de lait pour nourrissons de l'étranger. Actuellement, les États-Unis sont fournis par l'Australie, mais les experts prédisent que les pénuries vont se poursuivre au moins jusqu'en septembre. Amy David enseigne la gestion de la chaîne d'approvisionnement à l'université Purdue dans l'Indiana.
Nous savons également que certains des ingrédients utilisés dans les préparations pour nourrissons seront de plus en plus difficiles à obtenir en raison d'autres événements dans le monde, tels que la dépendance à l'huile de tournesol d'Ukraine.
Le conseiller présidentiel Brian Deese avait souligné en mai dernier qu'il devenait essentiel d'avoir plus de fournisseurs de lait pour bébés aux États-Unis afin qu'aucune entreprise n'ait le monopole des chaînes de production et d'éviter qu'une telle pénurie se reproduise dans l'avenir.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
En Côte d'Ivoire, un certain corps de métier, autrefois vu comme étant réservé aux hommes, sont maintenant exercés par les femmes. Aujourd'hui, elles sont nombreuses à braver les préjugés pour se faire une place dans des domaines jusqu'ici considérés comme des chasses gardées des hommes. Pour aller à la rencontre de ces femmes, suivons le reportage de notre correspondante à Abidjan, Delphine Bouise.
Les traditions ne sont plus ce qu'elles étaient puisque beaucoup de femmes ont osé franchir le pas. Nadège Kogui est l'une des rares femmes qui conduit un Gbaka, ces véhicules de transport public qui engorgent les routes d'Abidjan. Elle fait la desserte entre Adjamé, Liberté et Yopougon. Étant femme, pour surmonter toutes les barrières sociales et culturelles, elle a d'abord obtenu le soutien total de ses parents dans sa nouvelle aventure. Assise au volant de son Gbaka, elle est vite devenue l'attraction des passagers. Tout le monde veut monter à bord de son véhicule. Les clients apprécient.
Moi, ça me fait plaisir. Dans notre ancien temps,
il faut vraiment promouvoir les dames.
Les femmes sont très prudentes à Côte. C'est ça qui me plaît. Elles font moins d'accidents.
Beaucoup d'autres femmes se sont aussi engouffrées dans la brèche. Zeynabou Sissé conduit un taxi-compteur depuis 5 ans. Mère de deux enfants, elle a pu allier sa vie de famille et son travail.
Quand je suis à la maison, je suis une mère au foyer. Bon, quand je suis au travail, c'est le boulot, quoi.
La mécanique est un autre secteur jusque-là entièrement dominé par les hommes. La junte féminine est arrivée là encore à faire bouger les lignes. Aline Roxane Kwame travaille dans un garage de la commune de Makori-Romblay. Depuis 2 ans, elle est la seule femme sur la douzaine d'employés.
J'avais cette passion-là. Elle essaie ce métier. Je me suis dit, je peux le faire.
Et elle l'a fait. Elle a trouvé du travail dans un garage, mais se faire accepter et respecter par ses autres collègues tous des hommes a été une autre bataille.
Au fur et à mesure, ils se sont fait l'esprit quand on vient à l'atelier, ils enlèvent côté femme.
Et son superviseur, Béni Abou, est très satisfait.
Elle est bien, souvent même plus que d'autres garçons.
Aujourd'hui, les femmes sont aussi devenues agents de sécurité privée, communément appelés vigiles. Adira Kou connaît 22 ans.
Je suis là, ça fait 3 ans. Je ne me sens pas différente au milieu professionnel.
Encore plus rare dans ces milieux prétendument réservés aux hommes, Rachel Omepieu exerce le métier de soudeur à la Société internationale de transport africain Pararail, basée à Abidjan, la Cita Rail.
Je suis en train de travailler ici en wagon plat. Je chante sur la soudure des pivots. C'est tout au plus 2 heures du temps.
Il a aussi un point commun entre toutes ces femmes, c'est l'amour et la passion pour leur métier. Nadège Kebue, au volant de son véhicule Baka.
Je mets ça à l'aise.
Zeynabou Sissé est aussi toute heureuse conduisant son taxi à travers Abidjan.
Ça me fait plaisir quand je roule le taxi.
Pour Aline Kwame, mécanicienne, quand on aime, on peut faire bouger toutes les montagnes.
Quand tu aimes, il n'y a pas d'obstacle.
Beaucoup de gens vont au travail en se lamentant tout le temps, mais c'est loin d'être le cas pour la vigile Adira Kone.
Je suis fière de moi.
Et pour conclure, le rêve est permis. Nadège Kwebue ne veut nullement s'arrêter en bordure de route avec son Baka. Elle veut aller encore plus loin.
Pour rouler dans la grande compagnie, c'est mon rêve.
Et pourquoi pas avoir un jour sa propre compagnie de transport. Seul le travail et la détermination permettront d'arriver à bout de tous les obstacles. Delphine Bouise, Abidjan, pour VOA Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h sur 24.
Le Sénégal, champion d'Afrique en titre, a terminé les deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2023 avec des victoires convaincantes face au Bénin 3-1 et au Rwanda 1-0. 4 buts qui portent l'empreinte de Sadio Mané, devenu meilleur buteur de l'histoire de la sélection grâce à cet exploit. Alors, où se situe la vedette des Lions parmi les meilleurs joueurs de l'histoire du Sénégal? Les anciens internationaux sénégalais répondent au micro de notre correspondant à Dakar, Seydina Bagay.
Je crois qu'aujourd'hui, Sadio est en train de marquer son époque, de marquer son histoire et d'écrire son propre histoire.
Souvent comparé à Sadio Mané, le double ballon d'or africain El Hadj Diouf estime que son successeur dans l'attaque des Lions est parmi les top joueurs mondiaux. Pour lui, la dualité que certains essaient d'installer entre lui et la star des Lions n'a pas sa raison d'être.
Franchement, je vais vous dire une chose, ça c'est un faux débat. Et le plus important aujourd'hui, nous, c'est pas aujourd'hui El Hadj Diouf et Sadio Mané, c'est Sadio Mané et Salah. Aujourd'hui, c'est d'autres générations, d'autres personnes qui jouent. Et je crois qu'aujourd'hui, moi, tout ce que je souhaite à Sadio, c'est d'être le meilleur joueur du monde.
Les anciens internationaux sont également d'avis que Sadio Mané est devenu une icône de l'équipe nationale et du football sénégalais grâce à son travail et sa détermination. Cheikh Sidiba, ancien défenseur des Lions de la Teranga.
Il connaît sa valeur, il connaît le poids qu'il représente dans cette équipe nationale du Sénégal. Je ne parle même pas en club avec Liverpool, mais je pense qu'en équipe nationale, il a franchi un palier. Aujourd'hui, quand on voit Sadio, l'envie, la volonté qu'il a quand il joue avec l'équipe nationale du Sénégal, quand on le voit à l'échauffement avant un match, on voit que c'est un autre Sadio. On voit qu'il est omnibulé par le maillot de l'équipe nationale du Sénégal. Et ça, c'est une bonne chose pour nous, c'est une bonne chose pour le peuple sénégalais et c'est une bonne chose aussi pour lui.
Pour les observateurs de l'équipe nationale, la principale force de Sadio Mané est la régularité dans ses bonnes performances. Le journaliste sportif Cheikh Tidiane Diagne juge l'attaquant des Lions bien au-dessus de tous.
On parlait de El Hadj Diouf, c'est vrai qu'il a eu à faire de très belles choses avec cette équipe du Sénégal, mais bon, avec l'avènement de Sadio Mané, on a senti qu'en fait, on a vu un jeu beaucoup plus constant en équipe nationale, un club qui est parvenu à gagner, disons, des trophées que ses prédécesseurs n'ont pas gagné. Je veux parler de la Ligue des Champions, je veux aussi parler, disons, de trophées en Première Ligue, entre autres, je veux parler de la Carabao Cup, entre autres. Voilà, donc, cerise sur le gâteau, comme on dit, il gagne la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, tout cela confondu faisait que, véritablement, tout le monde savait que Sadio Mané est le meilleur joueur de l'équipe du Sénégal, toute génération confondue. Et là, il a confirmé la dernière fois avec ce but qui lui permet aussi d'être le meilleur buteur dans l'histoire de l'équipe nationale du Sénégal.
Meilleur buteur de l'histoire de la sélection nationale sénégalaise avec 33 buts, Sadio Mané fait désormais l'unanimité auprès des anciens internationaux et des observateurs de l'équipe du Sénégal. Pour eux, le natif de Bambali n'a pas encore fini d'écrire les plus belles pages du football sénégalais. Seydina Bagay à Dakar pour le voir.
Voilà, le monde aujourd'hui prend fin ici. La mise en monde a été assurée par Georges-Léonard Dagneux. Merci, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous ce soir. C'était Jacques Aristide dans la capitale américaine. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une excellente soirée et un très bon week-end sur VOA Afrique. A très bientôt.